Que le voy a poner un plomo a mi comadre divorciado.
Vous écoutez le mix des cultures
sur HDR.
HDR 99.1.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Bonjour.
Moi, tout d'abord, je voudrais savoir votre lien, qu'il soit direct ou indirect, avec les tirailleurs sénégalais. Si vous pouvez nous en dire plus par rapport à cela.
Je pense qu'on a tous un lien, direct ou indirect. On a tous un parent ou un grand-parent qui a fait la première ou la deuxième guerre mondiale.
Effectivement, ce qu'il vient de dire est bien vrai, parce que en tant que Sénégalais, on se sent concerné, mais quand on dit tirailleurs sénégalais, c'est un peu vague, parce que tirailleurs sénégalais, ça englobe les Maliens, les gens du Dahomey, voilà, même les Aliens, c'est les Gourmi, hein, c'était une unité à part. Mais pour ce qui est des Tiaroy, bon, dans ma petite jeunesse, j'ai fréquenté ce camp-là, et souvenir, il n'y en avait pas à l'époque, puisque c'était un camp de parachutistes sénégalais qui y sont toujours, mais à l'époque, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout, c'était vraiment à tout rang, quoi. Mais de souvenir du massacre de Tiaroy, c'est récemment vraiment que la chose a été connue, puisque nous, à notre époque, on en avait entendu parler, mais il n'y avait pas de stèle, de souvenir, ni quoi que ce soit. Puisque c'était une chose que personne, enfin les autorités, en complicité avec les autorités françaises, ne voulaient pas que les gens cherchent. Et c'est pour ça que je rends vraiment.
Si je peux me permettre là-dessus, c'était quoi les émotions principales durant ces périodes, situations qui vous a le plus frappé?
Moi, personnellement, disons que nous avions un professeur qui était révolutionnaire, c'est en 68 ans. Lui, il se gênait pas d'en parler puisqu'il en connaissait un petit bout. Nous, dans notre famille, bon, ils étaient pas trop éduqués, puis bon, ils avaient entendu parler de l'histoire, mais sans plus. Mais avec ce professeur-là, moi, personnellement, j'ai appris ce qui s'était passé. Enfin, de ce qu'il nous racontait, de son récit. Nous étions des petits rebelles, peine la haine de la France, franchement. Parce que je pensais pas que cette chose-là pouvait se passer. Des gens qui se sont battus pour vous et vous venez, vous les éliminez comme ça pour histoire de quelques thunes et qui n'étaient rien du tout. Ils demandaient que leur dû. Okay. Moi, personnellement, c'est ce ressenti-là que j'avais tant que jeune, hein, puisque bon, j'avais pas encore l'esprit bien façonné, mais bon, j'avais ce ressenti-là, quoi. Franchement, la France, quand je parle de la France, j'allais pas dire vive la France, puisque bon, avec ce qu'ils ont fait à nos compatriotes, ça faisait mal. Mais c'était pas l'histoire qui était vraiment connue comme aujourd'hui. C'était pas, parce que vraiment, je rends hommage aux gens qui ont su se battre pour faire sortir cette histoire-là de l'ombre. Nous, à notre époque, même à l'école, on n'en parlait pas. Okay. Enfin, moi, je n'en ai pas entendu parler à l'école.
Quand vous parlez, par exemple, de Dieu, à l'instant, ça, que ce que vous avez dit là, pour vous, c'est quoi les manquements, voire même ce qui aurait dû vous être attribué en toute globalité?
Les dus, c'est leur droit. Parce que chaque soldat, soit pendant la guerre, après la guerre, a droit à un petit perdium quand même, qu'on lui dépannait. Durant leur retour, c'est à partir de la France qu'ils ont commencé à revendiquer. C'est de là que les autres dégradés se sont dit, on va les sortir, puisque sinon les autres, s'ils entendent ça, alors ça va pas le faire. C'est de là qu'ils les ont embarqués dans le bateau. J'ai oublié le nom du bateau, mais hein, puisqu'il y en a un paquet qui a été reparti. Mais une fois là-bas, ils nous ont donné leur fascicule, qu'ils disent, je sais pas, il y a un truc, une carnet militaire qu'on leur donnait, que comme quoi ils ont libéré. Mais là, les gens se sont dit, non, on va être libérés, mais vous nous devez des sous. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des sous qui ont été versés à leur intention. À partir de là, bon, les gens se sont accrochés à leur dû, quoi, comme j'ai dit, voilà, quoi. Ils avaient besoin de ça pour vivre après la guerre, quoi. Non, mais bon, la haine, bon, peut-être je suis un peu excessif, mais disons que ça m'a beaucoup touché. Personne n'a offert sa vie. Parce qu'une vie, c'est sacré, c'est énorme.
Ouais.
Je vais au front. Je risque de me faire tuer à tout moment. Ben, Dieu merci, les balles ont soufflé à côté. Et au retour au pays, je demande qu'un tout petit peu d'argent pour pouvoir rentrer chez moi et puis voilà, faire vivre ma famille. Et de là, vous me tirez dessus comme un lapin, comme rien de tout. Et en plus de ça, c'est couvert de mensonges. On mentit à tout le monde. Enfin, je veux dire, les militaires, quoi. Les militaires, c'est qui les dirigent. Ils ont menti à tout le monde. Ça n'a jamais existé au départ. Non, le Tiaroy n'a jamais eu lieu. Mais finalement, bon, les survivants ont parlé.
Je peux peut-être juste ajouter une toute petite chose. Ils ont, pour justifier l'intervention, c'était des automitrailleuses hein, qui ont été mobilisées. Et ils ont appelé très tôt le matin les soldats à se réunir sur la place du camp et ils ont tiré. Et ils ont tiré comme ça, quoi. Et il y a eu des rapports d'officiers, des faux, qui ont fait croire qu'il y avait eu une mutinerie, qu'il y avait eu des armes, etc., ce qui n'a absolument jamais été le cas. Juste deux choses, si vous voulez, mais vous devez la connaître, des éléments là-dessus. L'historienne qui travaille là-dessus, elle s'appelle Armel Mabon, M-A-B-O-N. Elle était professeure à l'Université de Lorient. Elle publie tous les ans l'avancée de ses travaux, de ses recherches, et je peux, si vous avez une adresse mail, vous communiquer la dernière publication qu'elle a faite. Et elle a été interrogée sur France Inter, une émission qui a lieu en début d'après-midi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pourrais aussi vous donner le lien, voilà, pour que vous l'écoutiez si c'est nécessaire. Et puis, elle est vraiment celle qui se bat pour la vérité sur cette affaire depuis des années, en fait, Armel Mabon.
Moi, j'avais une question, c'était si dans votre famille, on vous aurait expliqué la qualité de vie d'un tirailleur sénégalais, si un parent à vous vous expliquait dans le camp, ça se passait comment, tout ça.
Vous verrez encore quelques baraquements où les soldats étaient là hébergés en attendant de rendre leurs uniformes et de toucher leurs pécules. Il y a même encore quelques grands lavabos dehors, mais il y a beaucoup de bâtiments. C'est un très grand camp qui est maintenant, comme le disait Damba, c'est maintenant un camp de l'armée sénégalaise en fait. Et le lycée est bâti sur le terrain du camp à Tiaroy.
Parce que l'espace du camp était tellement énorme et puis finalement, bon, ils ont découpé lycée, le collège, hôpital, je crois. Puis il y a des habitations aussi. Vraiment, c'était trop énorme. Enfin, c'était énorme, quoi. Et puis l'armée n'avait pas besoin de tout ça. C'était pour des manœuvres, mais c'était vraiment devenu une ville, Tiaroy. Puisqu'avant, c'était vraiment isolé en dehors de Dakar, quoi. Mais avec l'évolution de la population, après, c'est venu comme un peu ric-rac, quoi. Et de ce fait, le camp, ils ont conservé quelques hectares sans plus.
Moi, je voulais vous demander, vu que vous vous y connaissez plutôt bien sur cette histoire, est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit d'aller expliquer ça aux plus jeunes ou à un public beaucoup plus grand que le nôtre ?
Déjà, pour nous, c'était compliqué. Déjà, pour nous, personne n'est venu nous voir. Si ce n'est que quelques individus qui savaient quelque chose de l'histoire et qui venaient nous dire. Mais l'histoire est connue, hein, elle est très connue. Hein, elle est très connue, mais ça, c'était pas quelque chose qu'on divulguait comme ça. Et puis voilà, on savait que l'événement a eu lieu. Et c'était à Tiaroy. Mais après, bon, voilà quoi, c'était leur méta. Et puis voilà, personne n'en parlait beaucoup, quoi. Mais après, bon, au fur et à mesure, les années passant, les gens se sont dit que voilà quoi, c'est injuste par rapport aux soldats qui ont été tués de taire ce massacre, quoi. De ce fait, il y a des gens comme Mabon qui, voilà, moi, qui fait du bon boulot. Vraiment, je suis, grâce à Yann, je suis moi aussi l'histoire. Parce qu'il y a des choses que j'ai découvert grâce à cette dame-là aussi. Parce que j'ai vécu là-bas, je suis né en 59, j'ai vécu à Dakar, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Mais Tiaroy, on savait qu'il y avait le camp de Tiaroy, il y avait l'événement, mais l'événement est occulté par rapport au camp de Tiaroy, quoi. Parce que camp de Tiaroy, c'était vraiment un repère, quoi. Pour aller en banlieue, tu passes par le camp de Tiaroy, voilà, et puis pour t'expliquer. Mais sinon, l'histoire en elle-même, c'est vraiment pas très longtemps. Une trentaine d'années, peut-être quarantaine, que ça commence vraiment, la mayonnaise commence à prendre.
Vous avez dit que ça avait été mis sous silence, du coup, le massacre, et que vous l'aviez appris par votre professeur 68 tard. C'était en France, ça, que vous en avez entendu parler, ou c'était encore au Sénégal?
Ah non, au Sénégal. Au Sénégal.
C'est au Sénégal.
Ah non, moi j'ai fait tous mes études au Sénégal.
Et est-ce qu'il y a eu une reconnaissance par les autorités françaises, par le gouvernement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lieu de mémoire?
Ah si, maintenant, oui, il y a des stèles, il y a un cimetière qui a été, enfin, quelques tombeaux qu'ils ont creusés et puis ils ont mis les restes de certains soldats qu'ils ont pu retrouver. Mais sinon, il y a moins de tombes que de soldats qui sont morts, quoi.
Et le gouvernement français n'a jamais pris parole, n'a jamais reconnu...
Si. C'était Hollande.
François Hollande est passé. Il a reconnu que 35 tués, c'était probablement pas tout à fait le bon chiffre. Il a dit que c'était peut-être 70, dont on est loin des 200 véritablement. Et le cimetière de Thiaroye, que vous allez sans doute voir, il y a en effet des stèles, des panneaux qui expliquent. Mais en fait, les stèles, il n'y a pas de corps. Vous voyez, personne n'est inhumé sous les stèles. Et une des demandes, en particulier d'Armel Mabon, c'est qu'on connaît à peu près les endroits où il y a eu des fosses communes qui ont été creusés pour les victimes, et c'est d'exhumer, parce que là, on pourra en effet avoir une appréciation du nombre des victimes, quoi. Par ailleurs, le gouvernement français a toujours maintenu la thèse, avec des historiens d'ailleurs, qui soutiennent le gouvernement dans cette voie-là, et qui mentent, a toujours soutenu la thèse d'une mutinerie armée, et que l'état-major était en légitime défense, et qu'il fallait tirer, voilà, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Un dernier mot, mais que vous savez sans doute aussi bien que moi, c'est qu'on dit aussi beaucoup, et je crois que c'est vrai, que les combats pour l'indépendance ont commencé à Thiaroye aussi, voilà.
Vous pouvez rappeler, j'ai pas les dates en tête, l'indépendance du Sénégal, c'est en quelle année ?
60. D'accord. Et là, on est en début décembre 44.
Alors moi, j'ai une question, justement, dans le cadre de notre projet, on avait amené un groupe de jeunes voir au cinéma le film Tirailleurs avec Omar Sy. Alors bien entendu, ça reste du cinéma, mais l'idée, j'imagine qu'à travers ce film, a été justement de retranscrire l'histoire, peut-être méconnue, voire inconnue pour un certain nombre de personnes vivant en France, d'une période de notre histoire et de l'histoire du Sénégal. Moi, ma question, elle va être très simple, c'est... Est-ce que vous pensez que ce film a permis non seulement de mettre un peu plus en lumière ce qui s'est passé à cette période de l'histoire du Sénégal, mais en même temps, est-ce que cela a contribué à faire avancer, je dirais, des choses qui jusqu'ici n'étaient pas forcément dites ou très claires pour les gens ? Voilà, est-ce que le film a été véritablement un outil nécessaire, ou bien vous estimez que ça n'était que simplement un film de cinéma entre guillemets, je dirais lambda?
Je vais être très honnête, j'ai pas vu malheureusement le film. J'ai pas pu, au moment où il est sorti, je l'ai pas vu, mais d'après tout ce qu'on m'en a dit, je pense qu'il faut voir ce film, que c'est bien et qu'il est pour la vérité sur la vie des tirailleurs et sur Thiaroye, c'est important. En revanche, ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, c'est le film d'un réalisateur sénégalais qui s'appelle Ousmane Sembène et qui s'appelle Thiaroye 44 ou Camp de Thiaroye. Il s'appelle Camp de Thiaroye. Ça, vous allez le trouver en ligne ou en DVD. Et alors, ce film-là, il est absolument, il reconstitue la situation, enfin, ce qui s'est passé à Thiaroye. C'est un beau film, Ousmane Sembène, Camp de Thiaroye. Oui.
Comme disait Yann, hein, c'est le premier film. Bon, moi, je l'ai vu, hein. Ouais, bon, c'est plutôt le début, c'est comique, quoi, parce que bon, on parlait du français africain, voilà, puisqu'il y avait plusieurs nationalités africaines qui se sont rencontrées et puis s'inventaient des mots, des phrases. Enfin, c'est comique au départ, quoi. Bon, après, au départ, à la fin, ils ont plus ou moins brossé un tout petit peu l'histoire. Mais moi, je me retrouve par rapport à Sembène, un film de Sembène, je me retrouve plus, quoi, parce qu'on sent que, voilà, la détermination de ces gens-là, le pourquoi qu'ils ont demandé leur perdium, et puis voilà, ça explique la chose, quoi. Ça explique un peu la chose par rapport au discours officiel qu'on entendait, quoi.
Vous pouvez revenir sur un contexte historique dans le cadre dans lequel a été créé les tirailleurs. Est-ce qu'il y avait des différences justement entre l'armée française hexagonale, on va dire, et les tirailleurs dans leur mission, dans leur traitement?
Écoutez, l'armée dite tirailleurs, c'était constitué de plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis sinon, ici, il y avait une différenciation quand même par rapport à l'armée dite blanche de la française, et qui ne comportait pas d'Africains. Et puis sinon, c'était des trucs de choc. C'est-à-dire que si le terrain commandait, il était impossible, parce qu'il fallait sacrifier des gens. C'est eux qui ont envoyé en première ligne. J'ai oublié le bled, là, près de Bordeaux. Il y a un grand cimetière que les gens de chez nous reposent dans l'éternité. C'est ce qui leur est arrivé quand l'armée régulière française avait du mal a passé, on a envoyé l'armée dite des tirailleurs, y compris même les gourmis algériens et marocains, parce que c'était différencié quand même. Que ça soit même marocain et algérien, ils avaient leurs unités qui étaient à part. L'unité africaine, elle, elle était sous le commandement d'un chef qui est toujours blanc, mais qui est juste là pour, en cas de coup dur, personne n'a passé, on les a envoyés. Casse-pipe pour ne pas le dire, quoi, là. Puis sinon, il réussissait plus ou moins, mais quelquefois, c'est le massacre, quoi, après toute l'unité, quoi.
Et est-ce que vous avez une date au niveau de la création de ces tirailleurs ?
Général Mangin, qui était chef d'état-major de l'armée française, qui ensuite a fait la guerre 14, et c'est lui qui a théorisé ce qu'il appelait la force noire.
La force noire.
Et donc, c'était en effet, comme le dit Damba, de la chair au canon, hein, quand même. Hein, c'est-à-dire que c'était des forces qu'on envoyait en première ligne. Hein. Et donc, ça a été très important pendant la guerre 14, et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, parce que comme il y a eu la débâcle de l'armée française, si l'Empire s'est maintenu, si De Gaulle a pu reconstituer quelque chose qui ressemblait à un gouvernement avec une armée, c'est grâce aux armées sur le territoire africain.
Okay, même la France a bombardé Dakar, qui était française, oui. Pourtant, mais bon, il y avait les pétainistes et les gens de chez De Gaulle, ils ne s'entendaient pas, et puis les gens de Pétain ne voulaient pas que les gens de De Gaulle débarquent sur Dakar. Et Dakar a été bombardé. Des combats assez durs quand même, fratricides, mais finalement, bon, De Gaulle a eu raison plus tard, mais l'Afrique a eu son compte aussi, quoi.
En matière de différence de traitement, jusqu'à présent, certains tirailleurs n'arrivent toujours pas à toucher leur pension de guerre.
Non, moi je voulais juste dire que c'était en 1857, c'est tout. Création.
Justement, en fait, à ce titre-là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que sur cette question des pensions, je reviens sur cette histoire du film Tirailleurs, donc qui est sorti au cinéma. J'ai cru comprendre que la situation au niveau des pensions avait été débloquée pour un certain nombre de personnes qui ne la percevaient pas à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment le cas, ou bien on est encore dans une situation où un certain nombre de Sénégalais n'ont toujours rien perçu, sachant que j'ai suivi, enfin, et je suis toujours un peu tout ce qui tourne autour de cette histoire-là, et je sais qu'il y a un bon nombre de Sénégalais qui sont retournés vivre au Sénégal pour leur retraite et qui, un jour, ont été interrogés dans le cadre de la sortie du film, de la promotion du film, et disant que, enfin, ils espéraient en tout cas que le film allait contribuer à ce qu'ils puissent toucher, parce qu'ils n'avaient toujours pas touché, quoi. Donc, je voulais savoir s'il y avait encore un certain nombre de Sénégalais qui ne bénéficiaient pas de leur pension.
Oui, effectivement, bon. Bon, les anciens, ils ne touchaient pas ce que touchaient les Français. Ce n'était pas le même truc. Même s'ils touchaient la moitié, c'était la moitié du moitié, quoi. C'est tout ce qu'ils demandaient, c'est de rajuster leurs soldes à leurs parents, à leurs compagnons français. Et puis, jusqu'à récemment, ça a été plus ou moins augmenté, mais sans plus. Mais bon, ceux qui sont repartis, c'est parce qu'ils ont réajusté quand même les soldes. Et ce qui a permis à certains qui étaient là, puisqu'ils pouvaient, s'ils partaient au pays, ils touchaient que la moitié. Mais s'ils restaient en France, ils touchaient le même solde que les Français. Autrement dit, ils étaient obligés de rester en France. Il y a certains qui sont décédés entre deux, hein. Mais ceux qui ont eu la chance de survivre, ils allaient au pays pour un mois, deux mois, mais ils ne pouvaient pas rester, parce que s'ils restaient trop longtemps, c'est qu'ils étaient considérés comme étant repartis au pays. Alors c'est tout récemment qu'ils ont mis les choses au point, avec quelques médaillons, et puis voilà. Mais sinon, ils méritaient plus, parce qu'il y a beaucoup d'années qui sont perdues, beaucoup d'années de leur vie, qui ont perdu ici tout seul. Et certains sont repartis, mais il y a beaucoup qui n'ont pas survécu, hein, de ceux qui sont partis, de ce que j'ai entendu dire, quoi, parce que bon, finalement, ils se disaient que c'était résolu, mais bon, c'était le crépuscule de leur vie, quoi, parce qu'ils n'en gagnaient rien du tout. Ils touchaient peut-être leurs petits-enfants qui vont en bénéficier ou des choses comme ça, mais bon, même leurs enfants qui devaient quand même avoir la nationalité française ont été refusés, pour certains du moins. Il y en a beaucoup, leur nationalité, leurs sont refusés pour leur descendance.
Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la justification donnée par le gouvernement français pour, à l'époque, en 1944, pour ne pas payer le solde de la prime de captivité aux tirailleurs, c'était que, étant donné le coût de la vie au Sénégal, forcément, ils allaient en faire mauvais usage, quoi. Donc l'argumentaire était officiellement raciste. Mais officiellement, c'est-à-dire eux, ils n'en font que un mauvais usage, donc il ne faut pas leur verser la somme qui leur était due, quoi. C'est dit comme ça dans les textes de l'époque. C'est ce que dit Armelle Mabon, elle raconte ça explicitement, quoi. C'était un racisme d'État, là, vraiment officiel.
J'avais une question. En fait, je voudrais savoir comment est-ce que vous vivez le fait que certains jeunes sénégalais nés en France soient pas bien renseignés par rapport à ce qu'ont vécu leurs parents ou leurs grands-parents. Par rapport à ces jeunes-là, est-ce que vous ressentez de la déception ou de la colère, ou est-ce que vous essayez avec de la patience de leur faire comprendre ce qui s'est passé? Parce que ça doit être un peu compliqué de savoir que les générations, ils ont vécu des choses et que les jeunes maintenant, ils sont parfois occupés à des choses assez futiles. Comment est-ce que vous vivez ça?
Une démarche échange, c'est à double sens, hein, pour que les jeunes aussi viennent vers nous. Parce que c'est pas toujours évident de te prendre par le collet, tu t'assois dans la salle, je t'explique, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas, même moi, c'était imposé ça, parce que bon, on m'a pas trop appris dans ma famille, dans ma propre famille. Je l'ai appris à l'extérieur de ma famille, quoi. Mais quelquefois, quand on est curieux, comme vous l'êtes là, ben, on apprend des choses. Voilà, c'est en venant vers les gens qu'on apprend, mais c'est pas en restant dans le coin et finalement d'ici 3 jours il va m'expliquer. Non, c'est la démarche, c'est à double sens, quoi. Voilà, moi je viens vers toi, tu viens vers moi, tu t'assois, je connais des choses, je te les transmets. C'est une transmission, hein. On est, c'est la vie, dans la vie c'est toujours comme ça, on transmet, toi tu vas transmettre à tes petits enfants et puis voilà. Mais il y en a d'autres, bon, dès qu'ils l'entendent, bon, ça sort et ils gardent l'histoire pour eux, quoi. Ce qui n'est pas toujours très gentil, mais bon, l'histoire c'est fait pour être transmis, et puis voilà, comme ça va se répercuter dans le temps, quoi.
Moi, j'ai juste une question. La notion de supériorité de race, à partir de quelle année elle a commencé au fur et à mesure à disparaître et voir les mentalités s'améliorer? En fait, à partir de quelle année l'amélioration et le déclic de se dire en gros, on est tous pareils? C'est à partir de quand et à quel moment? Et qu'est-ce qui a fait que, en gros, ce raisonnement il commence à réapparaître?
Oui, je sais pas si j'ai bien compris sa question. Pour moi, cette notion, elle a toujours existé et elle existe toujours.
Je veux dire, est-ce qu'il y a une amélioration pour la compréhension de certaines...
Une amélioration de la part de qui?
De la population française. Plus blanche.
Mmh. Ouais.
En général, française ou autre.
Vous savez...
plus particulièrement française, parce que c'était le cas.
Bizarrement, c'est un hasard. Hier soir, j'ai écouté une intervention d'un collectif qui s'appelle Mansa. Mansa, voilà, dirigé par un ancien journaliste de RFI, Alain Foucault. Il disait que tout le monde pense que l'esclavage a disparu parce qu'il y a eu un mouvement et il y a des gens qui se sont rebellés. Mais en fait, c'est faux. L'esclavage a disparu parce qu'il y a eu la révolution industrielle. On n'avait plus besoin d'hommes, en fait, dans les champs. Les machines existaient, vous voyez? Et après, on a eu encore besoin de l'Afrique, mais pas des humains, mais de leurs ressources. Donc, cette notion de supériorité, en fait, hein, elle est toujours là. Elle a toujours été là.
Mais je pense qu'elle est plus cachée, dans ces cas-là, ou plus dans le...
Oui. Elle est plus, voilà, elle est plus subtile, on va dire. Voilà, elle est plus subtile. Donc voilà, maintenant, on n'a plus besoin de lui-même, on a besoin de sa ressource. Donc, voilà, depuis quelque temps, certains pays commencent à se rebeller, comme le Mali, le Burkina Faso.
Ils l'ont compris un peu tard, mais bon.
Oui, mais ouais. C'est pas mal déjà.
C'est pas mal déjà.
Oui, c'est pas mal déjà. C'est un début.
Pour certains Français et Françaises, le déclic, c'est à partir des tirailleurs, hein. Les tirailleurs, si on peut en revenir, parce que c'est là qu'ils ont découvert l'Afrique. Pas l'Afrique folklorique comme qu'il faisait quand il y avait des expositions, on amenait des Africains, on construisait de petits villages, voilà, les Africains vivaient comme ça. Et c'est à partir de la guerre que certaines personnes ont su que vraiment l'Afrique c'était pas ce qu'on leur comptait, quoi. C'était des hommes, on l'a digne d'eux-mêmes, et puis c'était des êtres humains comme tout le monde. Et même les Africains, ils ont acquis conscience aussi comme quoi le Français mort comme tout le monde, le Français a ses besoins comme tout le monde. Il y a des Français riches, il y a des Français pauvres. Et puis cette truc-là, ça s'est déclenché, hein, à partir de 43-44. Les gens, quand ils étaient démobilisés, quand ils revenaient au pays, ce n'est plus du tout le même Africain qu'ils ont embarqué au départ en partant à la bataille, quoi. Parce que l'autre, il a acquis d'autres expériences, il a vu d'autres choses. Puis bon, ils étaient plus évolués que les gens qui sont restés au pays. Quand ils viennent là, ils ont découvert autre chose. Ils ont découvert d'autres populations, des Algériens, ils se parlaient entre eux aussi. les choses, parce que bon, ils avaient tous le même combat, hein, parce que finalement, c'était vraiment un maître qui avait une échappe de plomb sur eux. Et puis bon, ils savaient rien de l'autre monde, mais là, à partir de la guerre, ils connaissent maintenant ce qui se passe. Et puis voilà, ils ont droit au chapitre, quoi.
Okay.
Voilà.
De votre vécu à vous, personnellement, et de votre expérience avec la guerre, etc., en termes d'humanité, c'est quoi les leçons que vous avez apprises tout au long de votre parcours de vie? Quels sont, en gros, ce que vous avez retenu et que vous voudriez, vous, personnellement, transmettre aux générations quelqu'un à travers votre vécu?
Après mon vécu, bah, j'ai pas vécu de guerre, hein. J'ai de la chance, quoi. J'ai de la chance. Voilà, ouais, dans mon entourage, effectivement, mais j'ai pas vécu de guerre. Bah, ce que je peux conseiller, c'est la paix et l'amour, quoi. Et voilà, quoi, parce que
et la solidarité.
Voilà, et la solidarité.
Comme on dit, quand on a vécu une fois la guerre, on veut que la paix maintenant.
Oui, parce que moi j'ai croisé pas mal de personnes qui ont vécu la guerre, qui ont connu la guerre, pour dire qu'ils étaient dévastés.
Oui, ça, c'est quoi la valeur de la guerre, et les sensations.
On